Laudetur Jesus Christus.
Le Moyen-Orient toujours sous haute tension après les frappes iraniennes contre Israël le week-end dernier. L'État hébreu promet une riposte, mais ses alliés appellent à la retenue. Le conflit qui s'étend aussi sur le territoire libanais. Hier, des soldats israéliens ont été blessés par le Hezbollah après une incursion de l'autre côté de la frontière. Nous retrouverons notre correspondant à Beyrouth. Ces tensions entre l'Iran et Israël, nous en parlerons également dans notre dossier. 2 milliards d'euros promis par la communauté internationale pour le Soudan, alors que le pays d'Afrique est plongé depuis un an dans une guerre civile meurtrière. Une conférence avait lieu hier à Paris. Dans ce journal également, les élections législatives en Croatie qui auront lieu demain mercredi et le président qui brigue aussi le poste de Premier ministre, un président de gauche qui n'hésite pas à reprendre les discours de l'extrême droite. Et puis nous irons également à New York dans ce journal où pour la première fois de l'histoire américaine, un ancien président comparaît devant une cour pénale. Il s'agit bien entendu de Donald Trump.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, la tension entre l'Iran et Israël est toujours au plus haut après l'attaque le week-end dernier des Iraniens contre le territoire israélien, attaque à coups de drones et de missiles de croisière. L'État hébreu promet une riposte malgré les appels à la désescalade de nombreux pays, à commencer par son allié américain. L'agression iranienne menace la paix mondiale, a tenu à rappeler hier encore le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cette guerre irano-israélienne se fait aussi en territoire libanais via le Hezbollah, la milice chiite soutenue par Téhéran, qui a revendiqué la responsabilité d'une explosion qui a visé lundi une patrouille israélienne en territoire libanais qui a fait 3 blessés. À Beyrouth, la correspondance de Paul Ralifé.
La patrouille israélienne se trouvait à plusieurs centaines de mètres du côté libanais de la frontière lorsque le Hezbollah a actionné la bombe. Ce n'est pas la première fois que les Israéliens font des incursions en territoire libanais depuis le début des affrontements le 8 octobre. Ces derniers mois, le Hezbollah a annoncé avoir déjoué 2 tentatives d'infiltration qui n'ont pas été commentées par Israël. La destruction par le Hezbollah d'une grande partie des systèmes électroniques d'écoute, de surveillance et d'alerte installés le long de la frontière a privé l'armée israélienne de ses yeux et de ses oreilles. Pour pallier cette insuffisance, les Israéliens ont recours aux drones et aux patrouilles au sol pour procéder à des repérages et des reconnaissances. L'entrée en territoire libanais est cependant risquée, car le Hezbollah a posé des charges explosives et des mines le long de la frontière. Sa force d'élite, Ar-Radwan, est déployée parfois à quelques centaines de mètres seulement de la clôture. Fin mars, 3 observateurs de l'ONU et leur traducteur libanais avaient été blessés dans une explosion dans le sud du Liban. L'enquête onusienne et celle de la justice libanaise avaient conclu à une mine. Accusé par Israël, le parti chiite n'avait pas commenté l'incident. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Sur un plan diplomatique, le chef de la diplomatie iranienne s'est entretenu, lui, avec son homologue chinois. Selon Pékin, l'Iran a exprimé sa volonté de faire preuve de retenue et n'a aucune intention de contribuer à une escalade des tensions régionales. L'Iran et Israël, nous en reparlons dans notre dossier à la fin de ce journal. Dans ce contexte de tensions régionales, la question, elle, du retrait des forces américaines en Irak était au cœur des entretiens hier soir entre Joe Biden et le premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani. 2500 soldats américains sont toujours déployés sur le sol irakien, 900 en Syrie dans le cadre de la coalition internationale anti-djihadiste. Basée près d'Erbil dans le Kurdistan irakien, les forces américaines ont d'ailleurs participé à la défense anti-aérienne d'Israël le week-end dernier. Plus de 2 milliards d'euros pour le Soudan, telles sont les promesses de dons faites hier à Paris lors d'une conférence internationale, alors que le pays d'Afrique est depuis un an le théâtre d'une guerre civile meurtrière. Selon l'ONU, la guerre civile soudanaise a fait des milliers de morts, près de 7 millions de déplacés à l'intérieur du pays et plus de 2 millions de réfugiés. Marie-Christine Bonzon.
Les promesses de dons pour la population du Soudan ont dépassé les attentes hier soir à Paris. Alors que les diplomates s'attendaient initialement à un engagement total de plus d'un milliard d'euros, la conférence s'est achevée sur un montant de plus de 2 milliards. À eux seuls, les États membres de l'Union européenne participent à hauteur de 900 millions d'euros, dont 110 millions promis par la France, 244 promis par l'Allemagne et 350 millions par l'UE. De leur côté, les États-Unis se sont engagés à verser 138 millions. Le président Emmanuel Macron a indiqué que ces dons vont répondre aux besoins les plus urgents du Soudan dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la santé, de l'eau, de l'assainissement ou de l'éducation. Cependant, l'ONU estime les besoins en aide à près du double des engagements pris hier soir à Paris, soit près de 4 milliards d'euros. Hier soir, le président français a appelé les belligérants, qui ont tous détourné une partie de l'aide humanitaire, à respecter le droit international et la protection des civils. L'accès humanitaire ne doit pas être instrumentalisé à des fins militaires, a lancé M. Macron avant d'exhorter les belligérants à, et je cite, « instaurer sans délai un cessez-le-feu pour permettre aux acteurs humanitaires d'atteindre l'ensemble des Soudanais ». Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
Et sur le terrain, la petite église soudanaise continue de vivre auprès de la population. Sur notre site Vatican News, vous pouvez retrouver le témoignage d'un prêtre missionnaire combonien qui vit dans le pays. Il y a tout juste 8 ans, le 16 avril 2016, le pape se rendait sur la petite île grecque de Lesbos aux côtés du patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée, et de Hieronymos, l'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce. Tous les trois visitaient le camp de Moria où sont accueillis des réfugiés. Ils avaient prié pour les migrants morts durant leur traversée, lancé des couronnes de laurier en mer. Dans son discours, François invitait à lutter contre les causes des migrations forcées. Il ne suffit pas de se limiter à faire face à l'urgence du moment, mais il faut développer des politiques de longue haleine qui ne soit pas unilatéral, lançait-il. La Grèce, où sera allumée ce mardi la flamme olympique à 100 jours du début des Jeux de Paris. Une flamme qui arrivera dans l'Hexagone à Marseille le 8 mai prochain. Elle traversera toutes les régions françaises, y compris les territoires d'outre-mer, avant d'arriver le 14 juillet à Paris. Les Jeux olympiques de Paris qui doivent débuter le 26 juillet. La capitale française qui accueillera aussi les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Partons en Croatie où se tiendront demain les élections législatives. Une élection au scénario pour le moins original, puisque l'actuel président Zoran Milanovic, connu pour ses envolées populistes de gauche, affronte son propre Premier ministre, le conservateur Andrej Plenković. Milanovic qui mène de facto la campagne du Parti social-démocrate sur une ligne trumpiste en tentant de séduire l'extrême droite. Les explications à Zagreb de Simon Rico.
Officiellement, il n'est pas candidat, mais c'est bien lui que l'on voit partout. Le Conseil constitutionnel a beau lui avoir interdit de se présenter, Zoran Milanovic n'en a eu cure, lui qui a traité ses membres de paysans illettrés. Son parti a d'ailleurs précisé que ce serait bien lui qui formerait le futur gouvernement en cas de victoire mercredi. Il faut dire qu'avant sa fracassante entrée en lice, le SDP plafonnait à 13% des intentions de vote et le Premier ministre conservateur, Andrei Plenković, se préparait à un troisième mandat consécutif malgré les nombreux scandales de corruption qui ont visé ses gouvernements. Zoran Milanovic promet de nettoyer le pays qui serait selon lui sale comme les écuries d'Ogias, quitte à renoncer à l'ancrage traditionnel antifasciste de son parti et à lorgner vers l'extrême droite pour espérer bouter hors du pouvoir les conservateurs. Ses saillies et ses attaques à tout va façon Trump séduisent et le SDP est aujourd'hui donné au coude à coude avec les conservateurs du HDZ. À Zagreb, Simon Rico pour Radio Vatican.
La commission justice et paix de la conférence des évêques de Croatie appelle elle à préserver la dignité de l'ordre politique et constitutionnel de l'État croate. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président est sur le banc des accusés dans un procès pénal. Donald Trump s'est présenté hier à New York devant la cour criminelle de Manhattan. L'ancien président, de nouveau en course pour la Maison-Blanche cette année, est inculpé pour 34 faits de falsification de documents comptables. Certains pour empêcher la révélation de sa liaison avec une actrice de film X. C'était en 2016. Hier, la première audience a été consacrée à la sélection des jurés, une procédure longue et complexe. À New York, Loïc Loury.
12 personnes et leurs 6 suppléants choisis parmi des centaines de jurés potentiels. Leur sélection pourrait durer plus de 2 semaines. Pour cela, un formulaire de 42 questions leur sera notamment soumis. Profession, éducation, sympathie ou engagement politique, préjugés à l'encontre de Donald Trump, entre autres. De quoi identifier des jurés impartiaux dans la mesure du possible, d'autant plus à Manhattan où Joe Biden avait recueilli près de 90% des voix en 2020. Passé cette étape laborieuse, il restera le plus dur, les convaincre dans un sens ou dans l'autre. Donald Trump a-t-il falsifié des documents comptables, comme l'estime le procureur Bragg, pour acheter le silence de Stormy Daniels et surtout cacher la vérité aux électeurs en 2016? Le procès pourrait s'étirer jusqu'en juin, en présence, 4 jours sur 7, de l'ancien président. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, sachez que ce mardi, les cardinaux du C9 se réunissent de nouveau autour du pape François au Vatican. La session de travail d'avril de ce conseil a débuté hier. La dernière session de travail des cardinaux du C9 avait eu lieu du 5 au 7 février dernier, avec la participation de 3 femmes qui avaient apporté leur contribution sur le thème du rôle des femmes dans l'Église. Les femmes qui sont au cœur de l'intention de prière du pape François choisie pour ce mois d'avril. L'attaque iranienne dans la nuit de samedi à dimanche dernier contre Israël a fait craindre pendant plusieurs heures à la communauté internationale un embrasement de tout le Proche et le Moyen-Orient. Présenté par Téhéran comme des représailles à la destruction du consulat iranien de Damas par Israël début avril, elle n'a pour l'instant débouché sur aucune riposte israélienne, Tel Aviv étant retenue par ses principaux alliés qui veulent éviter tout élargissement du conflit dans la bande de Gaza. Cette attaque inédite de la part de l'Iran s'inscrit dans le cadre du contentieux qui existe entre Iraniens et Israéliens depuis 1979 et le début de la révolution islamiste. Un contentieux qui met souvent aux prises les deux pays au travers d'intermédiaires, comme le Hezbollah libanais par exemple, nous l'avons vu. Mais cette attaque constitue cependant un tournant, c'est ce que nous explique ce matin Hasni Abidi. Il est chargé de cours à l'université de Genève et dirige le CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur les mondes arabes et méditerranéens.
Mais ce qui est nouveau, c'est que ce conflit, il sort de l'ambre. Et ça, c'est la nouveauté qui constitue un tournant. L'attaque contre le consulat iranien s'ajoute, bien sûr, à l'assassinat par les Américains de Qassem Soleimani, deux événements qui ont constitué une accumulation dans ce contentieux. Et il était dès lors impossible pour le régime iranien, et notamment la garde révolutionnaire proche de Guide suprême, de ne pas répondre à la fois pour laver l'affront, mais aussi rétablir sa dissuasion.
On peut s'attendre à ce que l'Iran, par ses partenaires régionaux, continue toutefois sa politique, entre guillemets, de harcèlement contre, ou de menace contre Israël.
Le régime iranien tient à préserver des acquis qui sont importants sur le plan nucléaire, sur le plan de la négociation avec les Américains qui se déroulent à Oman pour plusieurs questions régionales, pour la question aussi des fonds qui sont bloqués. Et l'Iran n'est pas prêt à sacrifier tous ses acquis, qui s'ajoutent aussi à la nécessité de la survie du régime et ne pas s'exposer à une réponse israélienne ou aussi une réponse américaine. Par contre, en cas d'une riposte israélienne substantielle sur le sol iranien, on va dépasser le stade du harcèlement où cette pratique de narguer les forces américaines ou israéliennes, on l'a vu dans, par exemple, à Erbil, en s'attaquant à un bâtiment proche donc des éléments israéliens et américains, on va dépasser ce stade de harcèlement pour arriver à une confrontation directe qui a commencé ce week-end, mais qui garde toujours un niveau du contrôle qui empêcherait cette escalade de devenir régionale.
Du côté d'Israélien, vous pensez qu'on a compris le message et que là aussi les Israéliens vont mettre un peu, on va dire, d'eau dans leur vin par rapport à l'Iran et à ses agissements dans la région?
Oui, le message a été reçu par les Israéliens, mais quand on parle des Israéliens, mais lesquels? Aujourd'hui, il existe une divergence au sein du cabinet israélien. Vous avez une voix qui veut absolument répondre et frapper, et qui est soutenu d'ailleurs par une autre partie aux États-Unis, une autre voix qui parle plutôt de la fin de ce conflit et que la facture a été soldée puisque les Iraniens ont répondu à cette humiliation par une frappe transparente et le timing a été déjà envoyé aux Américains mais aussi aux alliés de l'Iran. Et c'est tout le rôle et toute la mission difficile qui incombe aux Américains d'empêcher leurs alliés israéliens de commettre l'irréparable, c'est-à-dire une réponse substantielle à l'attaque iranienne est en mesure de faire basculer la région dans une situation du chaos, puisque les Iraniens n'hésiteraient plus à frapper d'autres intérêts, que ce soit des intérêts israéliens ou américains, et notamment en Méditerranée, en mer Rouge, et même dans certains états du Golfe. Évidemment, on pense à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis.
Israël a vraiment intérêt à jouer la surenchère face à l'Iran?
La surenchère israélienne est un art c'est la surenchère qui permet aux Israéliens d'obtenir les garanties nécessaires, le flux financier et militaire nécessaire à une autre guerre, celle qui se déroule à Gaza, et probablement aussi pour avoir moins de pression de la part de l'administration Biden sur le gouvernement israélien dans sa guerre à Gaza. Le soutien américain, mais aussi de certains pays comme l'Allemagne et la France, a montré qu'Israël n'était pas si isolé que ça. Mais il y a un prix à ce soutien, c'est bien entendu ne pas répondre à cette frappe, mais probablement aussi avoir une autre approche à Gaza.
Interrogé par Xavier Sartre, Hassni Abidi, directeur du CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur les mondes arabes et méditerranéens, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 13h en direct de Rome. Excellente journée à tous.